VOA Afrique, les infos à Washington.
Bonjour à tous, Jean-Roger Billon, 11h en temps universel. Le Congrès national africain, l'ANC au pouvoir en Afrique du Sud, élira le week-end prochain son nouveau président en remplacement de Jacob Zuma, l'actuel chef de l'État. Le vainqueur aura de bonnes chances de devenir dans 2 ans le prochain président sud-africain. La lutte s'annonce très serrée entre le vice-président Cyril Ramaphosa, ancien dirigeant syndical et l'une des grandes fortunes du pays, et la candidate soutenue par Jacob Zuma, son ex-femme, Nkosazana Dlamini Zuma, ancienne ministre et ancienne présidente de la Commission de l'Union africaine. Le cri d'alarme de l'Organisation internationale des migrations sur une éventuelle menace de catastrophe humanitaire en République démocratique du Congo, l'OIM estime que les violences à répétition dans l'est de la RDC, la crise au Kasaï dans la région du Tanganyika, provoquant un grand nombre de déplacés internes et des réfugiés, constituent assez d'ingrédients pour que la RDC devienne une plus forte urgence en 2018. Solange Diamolissa a joint Jean-Philippe Chosy, le chef de la mission de l'OIM en République démocratique du Congo.
La situation humanitaire en 2017 est déjà extrêmement préoccupante puisqu'on a plus de 4 millions de personnes déplacées à l'intérieur même du pays, dans les provinces qui ont été déclarées au niveau d'urgence 3 par les Nations Unies, à savoir le Tanganyika, le Grand Kasaï, le Sud Kivu. Mais on a aussi une situation extrêmement préoccupante au Nord Kivu, en raison de l'insécurité persistante, de nouveaux déplacements, avec par exemple 6 sites spontanés qui se sont créés au cours des dernières semaines, avec 20 000 personnes qui aujourd'hui ne reçoivent aucune assistance. Donc malheureusement, nous sommes obligés de nous préparer pour 2018, une année qui pourrait être encore plus difficile, avec plus d'insécurité, en raison notamment de la situation politique qui demeure bloquée, avec des groupes armés qui se multiplient, qui se fragmentent, qui terrorisent la population.
Mais depuis 1996, il y a toujours eu des déplacés internes en RDC. Est-ce que c'est seulement la question des déplacés internes ou il y a d'autres facteurs?
On a, si vous voulez, une extension de l'insécurité, du conflit et un nombre de plus en plus important de personnes vulnérables qui sont dans des zones qui aujourd'hui sont extrêmement difficiles d'accès. Donc ce n'est pas parce qu'on a eu de par le passé une insécurité qui a entraîné des déplacements en RDC qu'on doit ignorer aujourd'hui le fait que ces déplacements se sont accélérés, que les besoins ont augmenté de manière considérable, phénoménale, puisque le plan de réponse humanitaire pour 2018, double, c'est-à-dire que de quelques 800 millions de dollars cette année qui n'ont malheureusement pas été financés à hauteur, eh bien on passe pour l'an prochain à peu près 1,5 milliard. Les besoins sont énormes et malheureusement on a l'impression que la RDC n'est pas vraiment sur le radar de la communauté internationale, d'où cet appel à financement à hauteur de 75 millions de dollars pour 2018 que l'OIM vient de lancer aujourd'hui.
Et que faut-il faire pour éviter cette catastrophe humanitaire ?
La protection des Congolais incombe au gouvernement. La protection des personnes déplacées incombe donc à l'État souverain du Congo. Il faudrait aussi que les bailleurs puissent prendre la mesure de l'urgence en RDC et malheureusement de la catastrophe humanitaire qui est en train de se profiler, si rien n'est fait. Il faudrait aussi que l'on puisse obtenir accès à des zones qui sont aujourd'hui difficiles en raison notamment de cette insécurité et des groupes armés illégaux qui opèrent dans des grandes parties non seulement de l'Est de la RDC mais également au Kasaï et également que l'on puisse obtenir des garanties de la part des forces armées congolaises qu'elles puissent laisser les humanitaires faire leur travail en toute neutralité, en toute impartialité pour qu'on puisse apporter cette aide qui est tant attendue aujourd'hui de la part des déplacés en RDC.
Jean-Philippe Chosy, chef de mission de l'OIM en République démocratique du Congo. Le président burundais Pierre Nkurunziza a lancé mardi la campagne du référendum portant sur une réforme de la Constitution qui prévoit qu'il puisse rester au pouvoir jusqu'en 2034. Le gouvernement burundais a adopté fin octobre un projet de révision de la Constitution qui permettrait au président Nkurunziza de briguer à partir de 2020 2 mandats de 7 ans. L'annonce en avril 2015 de sa candidature à un 3e mandat controversé avait ouvert une crise politique qui a fait depuis au moins 1 200 morts et plus de 400 000 déplacés. Lundi, le gouvernement a imposé une contribution volontaire de la population pour financer les élections de 2020 dénoncées par l'opposition comme un vol organisé. République centrafricaine, la Russie a demandé au Conseil de sécurité de l'ONU une exemption à l'embargo sur les armes imposées à la RCA, et ce afin d'équiper deux unités de l'armée de ce pays en cours de formation. Selon des sources diplomatiques, cette demande apparaît conforme à la volonté de l'ONU de voir se renforcer une armée faible, dépourvue de formation et d'équipement. Elle a toutefois suscité des inquiétudes de la France sur les conditions de stockage des armes et munitions fournies. En Côte d'Ivoire, les enseignants de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan ont entamé hier une grève illimitée pour réclamer le paiement d'heures supplémentaires. Solange Diamolissa.
Le secrétaire général de la Coordination nationale des enseignants-chercheurs et chercheurs de Côte d'Ivoire, Kwasi Zamina Johnson, a déclaré qu'ils vont rester en grève jusqu'à ce que le gouvernement paye les heures supplémentaires effectuées durant l'année 2015-2016. L'État devait les payer avant juin 2017. Selon le syndicat des étudiants, l'université était hier totalement à l'arrêt. Selon les chiffres de l'administration, les heures supplémentaires non payées représentent un total de 8 073 millions de francs CFA. La Côte d'Ivoire fait face à une large gronde sociale depuis le début de l'année. Les fonctionnaires de différents secteurs ont mené plusieurs mouvements de grève. Le gouvernement et les syndicats ont signé en août une trêve sociale de 5 ans, moyennant le paiement sur plusieurs années d'arriérés de salaire pour environ 130 000 fonctionnaires.
La France réunit aujourd'hui une vingtaine de dirigeants pour accélérer la mise en œuvre de la nouvelle force conjointe G5 Sahel en raison de l'urgence sécuritaire sur le terrain. Le président français a convié au château de la Selle Saint-Cloud, près de Paris, ses homologues du G5 Sahel, le Malien Ibrahim Boubacar Keïta, le Nigérien Mamadou Issoufou, le Burkinabé Roch Marc-Christian Kabore, le Tchadien Idriss Déby et le Mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz. À leur côté, des partenaires de la force commune, l'ONU, l'Union africaine, l'Union européenne, la chancelière allemande Angela Merkel et les chefs des gouvernements italiens Paolo Gentiloni et belge Charles Michel, l'Arabie saoudite, les Émirats et les États-Unis y participent également. L'objectif est d'accroître la mobilisation au profit du G5 Sahel sur les plans militaires, politiques, financiers, explique l'Élysée. Et puis ici, même aux États-Unis, le candidat démocrate Doug Jones a remporté l'élection organisée mardi pour un poste de sénateur dans l'Alabama, infligeant indirectement une défaite à Donald Trump. Monsieur Trump, dans cet État conservateur du sud des États-Unis. Vous suivez la Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Et à Washington, il est 6h07. La Turquie a appelé ce mercredi la communauté internationale à reconnaître Jérusalem-Est comme capitale d'un État palestinien. Cette réunion survient quelques heures avant un sommet des dirigeants du monde musulman qui se tient à l'appel du président Recep Tayyip Erdogan, l'un des plus véhéments critiques de la décision de son homologue américain Donald Trump annoncée le 6 décembre de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. L'armée israélienne a de nouveau frappé dans la nuit de mardi à mercredi une position du mouvement islamiste Hamas dans la bande de Gaza après un tir de projectile en provenance de l'enclave palestinienne. Les frappes israéliennes ont fait 3 blessés légers, a indiqué le ministère de la Santé dans la bande de Gaza. Des raids aériens de la coalition sous commandement saoudien ont fait au moins 12 morts et 80 blessés aujourd'hui dans un camp de prisonniers tenu par les rebelles houthis dans la capitale yéménite Sanaa, contrôlée par ces insurgés, selon la télévision Al-Masira, contrôlée donc par ces insurgés. Selon Al-Masira, les victimes sont des détenus. Les raids avant l'aube ont visé un camp géré par la police militaire qui dépend des rebelles, a ajouté cette chaîne-là. Et pour terminer, le président philippin Rodrigo Duterte a obtenu aujourd'hui la prolongation pendant un an de la loi martiale décrétée dans le sud du pays contre les rébellions communistes et islamistes, le Congrès balayant les craintes relatives aux droits de l'homme. Le Sénat et la Chambre des représentants ont autorisé le chef de l'État à maintenir jusqu'au 31 décembre 2018 ce régime d'exception sur l'île de Mindanao. M. Duterte avait imposé la loi martiale et suspendu les privilèges de l'habeas corpus, une garantie contre les arrestations arbitraires, à main dans la foulée d'un soulèvement de djihadistes se réclamant du groupe État islamique à Marawi, la plus importante ville musulmane de l'archipel à majorité catholique. Jean-Roger Billon, point final à ce journal. Le prochain, dans 50 minutes, en compagnie de Henri Francis. Merci pour votre fidélité. Bon après-midi.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.